17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui, Wiza Gallez. Bonjour Wiza.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous, c'est une vraie chance. On profite de votre passage à Paris. Vous êtes docteur en philosophie, professeur de philosophie. Vous avez enseigné à l'Université d'Oran, entre autres, et d'Alger. Vous êtes chercheuse au Centre national de recherche en préhistoire, anthropologique et histoire, chargée du patrimoine culturel immatériel à Alger. Vous êtes expert auprès de l'UNESCO, chargé des questions du patrimoine. Beaucoup de casquettes. Vous êtes philosophe. Vous avez abordé dans votre thèse la pensée d'Heidegger, ce qui n'est pas courant dans le monde, on dirait, du Sud, arabo-berbéro-islamique, tant la philosophie n'est pas n'a pas très bonne presse dans ces pays-là. Vous êtes aussi attaché à la pensée soufie, ce qui est aussi, de par certains orthodoxes de l'islam, considéré un peu aussi comme kafir. On l'a vu avec tous les mouvements extrémistes de ces dernières années. Vous avez aussi plusieurs cordes à votre arc. Vous avez évalué le système associatif algérien. Vous avez publié un guide pour les associations. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous avez participé tout récemment au Forum des mondes méditerranéens à Marseille, qui était un forum impressionnant où toute la Méditerranée était réunie. Et vous, vous vous êtes illustré notamment dans des tables rondes concernant la cuisine en Méditerranée. On en parlera dans un instant. Je disais à l'instant, je parlais de votre formation, vous êtes philosophe et vous avez abordé la pensée d'Heidegger. Heidegger qui est le philosophe du siècle. Il a inspiré, on dit que Jean-Paul Sartre, c'est une pâle copie de Heidegger, et puis Heidegger qui a été emprisonné parce que vilipendé parce qu'on a dit qu'il était complice du Troisième Reich, qu'il avait un petit peu des connivences nazies. Tout ça a été démonté par la suite et tout. Mais votre propension à aller vers déjà la philosophie et vers Heidegger, ça recèle de quoi? De votre éducation, de votre formation, de votre intuition? Comment vous êtes venu à la philosophie?
Plusieurs questions en une seule.
Oui.
Merci déjà pour cette invitation. Je serais contente d'être là pour pouvoir répondre à ces questions et éclaircir peut-être quelques passages dans le monde de la philosophie. Heidegger, c'est le philosophe effectivement du XXe siècle, comme Platon a été le philosophe de son temps. Alors la copie d'Heidegger, la pâle copie d'Heidegger, ça c'est les Allemands qui le disent. Les Français préfèrent dire un successeur d'Heidegger, mais il faut quand même retenir qu'il n'y a jamais eu de rencontre alors qu'ils étaient contemporains. Et je pense que ce refus, enfin, cette non-existence de la rencontre, c'est parce qu'Heidegger prenait ses distances par rapport à l'existentialisme sartrien. Et l'existentialisme de tout le monde, de la deuxième partie du monde du XXe siècle. En fait, Heidegger n'est pas seulement un philosophe existentialiste. D'ailleurs, il se refuse d'être le philosophe existentialiste. Il préfère dire « je suis le philosophe de l'existence », avec tout ce que le mot « existence » comporte, comme regard anthropologique, regard rationnel, regard existentiel, bien entendu, regard philosophique, tout simplement.
Alors vous l'avez étudié dans la langue française ou en allemand?
Je l'ai étudié dans la langue française.
Parce qu'il y a beaucoup de traductions.
Elles sont très bien faites. Hein. Donc, pour celui qui s'y prend tard, c'est bien de se mettre aux langues. Mais quand on n'a pas le temps et qu'on a beaucoup de choses à faire, les traductions en français étaient vraiment très bien faites. Il y a aussi une seule traduction en arabe qui a été faite par un Tunisien dont j'ai perdu le nom, mais qui est aussi très bien faite. C'était la traduction de Être étant. C'est la seule qui m'a vraiment plu. Sinon, pour le reste, il y a des bribes de traduction à droite et à gauche. Il y a aussi un autre livre qui a été écrit par un auteur libanais sur Heidegger et les Arabes. Donc, il essaye de prendre la pensée d'Heidegger non pas comme une pensée à part entière, mais comme une méthode de pensée et de la calquer sur ce qui se fait et ce qui devrait se faire dans certains pays arabes, arabes entre guillemets, c'est-à-dire d'expression arabe, notamment le Liban et l'Afrique du Nord.
Alors, un cheminement très particulier, Wiza, puisque vous allez aussi sur la mystique et sur l'héritage et la pratique soufie. Donc, une femme de culture amazigh, philosophe, dans le soufi, vous avez réuni tous les bâtons pour vous faire battre.
Oui, bon, je subis les conséquences et j'assume. Le soufisme, j'ai un regard très particulier pour le soufisme et beaucoup de respect. Pourquoi? je reviens au patrimoine, parce que le patrimoine, déjà, c'est un regard anthropologique à la société, ce que Heidegger avait annoncé, parce qu'il est un petit peu le fondateur de l'anthropologie du point de vue philosophique. Le soufisme, c'est la même chose. Si on regarde les maîtres soufis algériens, c'est grâce aux maîtres soufis en Algérie que nous avons pu garder notre patrimoine et notre langue. Parce que les maîtres soufis sont allés apprendre l'islam. Dans la langue de l'islam, ils sont revenus pour apprendre aux Algériens à l'appliquer selon leur langue à eux et leur coutume.
D'ailleurs,
à
les soufis sont détestés et haïs par les wahhabites, par toute la tradition du Moyen-Orient.
Moi, je pense que pouvoir apprendre à un kabyle comment être un bon musulman en kabyle et sans renier ses propres traditions qui sont ancestrales et qui sont bien antérieures, avant la venue de l'islam en Algérie, ça, je trouve ça extraordinaire. Et Sidi Mohamed Ben Abdelrahman...
Est-ce qu'on peut dire qu'à la fois le soufisme et, disons, l'héritage maraboutique sont, je dirais, une espèce d'islam d'intercession que l'islam orthodoxe du Moyen-Orient a accusé d'être un islam un peu mystique, c'est-à-dire presque chrétien, c'est-à-dire que à partir du moment où on aborde le mysticisme, on se rapproche de la chrétienté. Donc là, ils avaient des arguments pour lui taper dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fois le soufisme et le maraboutisme étaient les deux pieds d'un même, disons, d'une culture qui permettait à la culture d'Afrique du Nord, la culture berbère, de continuer à s'exprimer, à se développer?
Je n'irai pas jusqu'à cette pensée de presque chrétien ou presque juif ou autre chose. Je n'aime pas les presque et puis ce sont des étiquettes. Mais je dirais que le soufisme, c'est une religion inclusive qui ne rejette rien. D'abord, elle inclut toutes les religions, parce qu'il n'y a pas une religion qui vaut plus qu'une autre. Elle inclut toutes les traditions. Il n'y a pas une tradition qu'il faut rejeter parce qu'on a intégré l'islam ou parce qu'on a importé l'islam. Elle inclut aussi les sexes. Il y a énormément de femmes soufis dans la pensée soufie, ce que nous ne retrouverons pas dans le fiqh islamique. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a même des femmes, bon, le soufisme, quand on rentre dedans, il y a des niveaux de connaissance et des niveaux de spiritualité. Le niveau de Qutb, le pôle, c'est un des plus hauts niveaux de la spiritualité soufie. On a des femmes Qutb, ce qui est extraordinaire. Et on a aussi des femmes soufis qui ont arboré la révolution. Lala Fatma Soumane en est un exemple. Elle est fille de Cheikh, sœur de Cheikh. Quand elle a quitté son père, elle est née à aller coucher son frère qui était Cheikh dans une autre zaouïa. Et elle-même, elle a commencé à enseigner aux filles et garçons. Elle a commencé à réunir des femmes pour leur expliquer comment se comporter en tant que femme dans une famille soufie, c'est-à-dire leurs droits juridiques, leurs droits d'épouse, etc. Donc il a vraiment accepté les femmes, il a inclus les femmes comme étant des éléments de la pensée soufie et non pas seulement des sujets de la pensée. Et je trouve ça très inclusif.
Ouza Galès, je disais que vous êtes experte auprès de l'UNESCO, chargée des questions du patrimoine, en particulier en Algérie. Vous avez accompagné le dossier algérien pour le dépôt du couscous, comme dans le patrimoine universel de l'UNESCO. On va bien sûr aborder les questions du patrimoine immatériel dans lequel vous excellez, vous êtes une spécialiste. Mais je voudrais vous parler de quelques expériences que j'ai vécues. Quand je suis à Cherchel, je vais vers Cherchel. Je vois sur la place de Cherchel un magnifique emporium romain qui est devenu une mosquée. Quand je suis à Alger, je suis en cœur d'Alger, je vois l'église du Sacré-Cœur, donc qui tombe en ruine, la cloche déglinguée, qui je ne sais pas s'il prie dedans ou pas. Quand je vais à Biskra, là où il y a Orkouba, en face il y avait les maisons des Hamadites, on les a détruites et on en a fait un parking. Les espèces de ruines romaines, les gens les prennent et les mettent en bas de chez eux pour faire écouler l'eau. Toujours à Cherchel, sur la route, on a les aqueducs. J'ai vu des gens construire des maisons, le mur de soutènement qui repose sur l'aqueduc. Quand vous êtes à Tipaza, n'en parlons pas, hein, Tipaza qui est un des fleurons du patrimoine, ce sont des décharges publiques à ciel ouvert. Comment ça peut exister, ce genre de choses? L'État est absent, l'État voit, l'État le laisse faire. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi ce patrimoine n'est pas protégé?
Moi, je résume tout ça sous un simple mot de l'ignorance.
Et pour pas parler aussi, je voulais vous parler d'Oran, la cathédrale d'Oran qui est devenue une poubelle. Je veux dire, vous allez tout là où il y avait l'aumône, vous avez les chaises qui s'entassent. C'est ce que j'ai vu. Ils ont fait une pseudo-bibliothèque, je veux dire de bas niveau. Et pour ne pas parler de la synagogue qui est en front de mer, des gens faisaient des travaux à l'intérieur. Ils ne savaient même pas que c'était une synagogue, un édifice magnifique. Pourquoi cet abandon? Pourquoi cette négligence? Qu'est-ce qui se passe?
Comme je vous disais, je résume tout ça sous un terme très simple, de l'ignorance. L'ignorance de la population de son patrimoine. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le patrimoine.
Pour nous, l'État, lui, sait. Il y a des experts.
L'État sait. Maintenant, il y a des experts. Il y a aussi des priorités politiques qui ne sont pas les priorités culturelles, malheureusement.
Est-ce que le patrimoine fait partie des choses régaliennes? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait être institué comme quelque chose?
Il suffit de voir le budget du ministère de la Culture par rapport au budget du ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères pour avoir la réponse. Ce n'est même pas 1%. Donc, en plus de ça, voyons le profil des ministres de la Culture que nous avons eu jusque-là. Ils ont des profils, hein. C'est docteur en philosophie, docteur en biologie. Mais un docteur en biologie ne répond pas à la question de la culture. Il faut pour cela qu'il apprenne, qu'il soit sur le terrain, qu'il se soit posé la question de qu'est-ce que le patrimoine. Or, pour l'instant, il y a un formatage de la pensée algérienne pour des raisons politiques. Je ne voudrais pas exposer ici parce qu'on n'a pas le temps. En plus, on a des choses plus intéressantes à faire. Mais disons que pour l'instant, on ne réfléchit pas patrimoine, on réfléchit social avant tout. Et pour le social, toutes les dépenses qu'on peut avoir, on préfère les mettre dans des maisons, dans des constructions d'appartements, que de mettre en valeur le patrimoine. Et comme il n'y a rien, il n'y a aucune politique de mise en valeur pour le patrimoine, donc il va en ruine, il se retrouve complètement délabré. Et il n'y a rien qui fait pour arrêter ça. Pour arrêter cette avalanche, parce que les gens ne sont pas prêts, les gens ne sont pas formés, ils ne sont pas intéressés, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est vraiment leur patrimoine. Ils s'arrêtent dans leur esprit de patrimonial au grand-père ou l'arrière-grand-père et peut-être.
Mais ça devrait commencer à l'école, on devrait apprendre ça à l'école.
Justement, c'est pour ça que je disais l'État a d'autres priorités politiques et à l'école, on ne dit mot du patrimoine. On ne dit mot de rien d'ailleurs. L'école est devenue pour moi, malheureusement, un lieu où on apprend les choses techniques pour parler, pour apprendre la grammaire sans apprendre à parler, sans apprendre la langue, apprendre les maths sans apprendre l'architecture sacrée. Voilà, c'est devenu un lieu technique.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Algérie est engagée dans une robotisation des personnes et on oublie l'âme algérienne, on oublie l'âme de ce pays.
Voilà, c'est une automatisation de l'esprit scientifique.
On revient dans un instant.
Au mieux, hein.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, et toujours avec la passionnante Ouiza Galez, qui est en charge notamment à l'UNESCO des questions du patrimoine pour l'Algérie, du patrimoine immatériel. Alors Ouiza, on rentre un peu dans le vif du sujet. Vous avez en charge le patrimoine immatériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les chansons, les fêtes, les vêtements, les plantes médicinales. Ça veut dire... Que représente le patrimoine immatériel en Algérie?
Revenons un petit peu à la base. Patrimoine culturel immatériel, c'est une partie du patrimoine culturel. Alors, tout au début, après la Première Guerre mondiale, il y a un philosophe, encore un, qui a tiré la première sonnette d'alarme en disant que les hommes se détruisent, ça les regarde, mais qu'ils détruisent aussi ce que nous possédons depuis la nuit des temps, ça c'était un grave problème, c'était Leibniz. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir comment protéger le patrimoine. C'est seulement en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, que la question est devenue cruciale, parce qu'il y a eu énormément de destruction. De 1946 jusqu'à 1971, on a pu pondre, je dis bien après tant d'efforts, une première convention, mais qui ne concernait pas le patrimoine culturel. En fait, elle concernait surtout le patrimoine naturel, c'était la convention Ramsar. Une année plus tard, on a fait la convention de 72, qui consiste à lister, énumérer et proposer un plan de sauvegarde de tout ce qui est patrimoine culturel. Mais là, on s'est rendu compte qu'on listait vraiment du patrimoine culturel matériel. Ça, à l'époque, ça s'appelait en 72, ça s'appelait pas encore matériel, ça s'appelait seulement patrimoine culturel. Alors, je peux lister par exemple El Jemila, Tipaza, je sais pas, les ruines anciennes, Timgad, les vieilles bâtisses, les vieilles mosquées qu'il faut restaurer. Quelques temps plus tard, ou d'ailleurs même avant, parce que la pensée existait avant, mais elle a été concrétisée plus tard, c'était Mpateba qui disait « En Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qu'on enterre. » Donc c'est seulement en 2003 qu'on s'est dit « Pourquoi ne pas aller vers ces bibliothèques encore vivantes et leur demander ce qu'elles savent pour qu'on puisse d'une part l'inventorier et d'autre part l'apprendre à d'autres personnes ?» et le sauver de la déperdition.
Un travail de titan, là.
C'est un travail de titan, seulement on ne peut pas tout protéger, et on ne peut pas protéger éternellement, mais on permet seulement aux choses d'exister un peu plus longtemps, à certaines choses sans d'autres. Alors, à partir du moment où le sans d'autres devient conséquent, il faut demander à la société civile qu'est-ce qu'elle veut garder de son patrimoine. Et c'est pour ça que la question de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dépend de la société en premier.
Alors la société civile, c'est qui ? Ce sont les villageois, c'est les villageois,
c'est d'abord les détenteurs. Moi, femme qui roule le couscous, j'aimerais que ma fille, que les filles du village ou les filles du quartier apprennent à rouler le couscous.
C'est d'abord le citoyen, la citoyenne.
C'est les détenteurs des savoir-faire et les détenteurs des rituels et les détenteurs des pratiques sociales. Ce sont d'abord les détenteurs qui les détiennent et qui savent ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi il retourne. Ensuite, il y a les praticiens, ceux qui pratiquent les fêtes, ceux qui organisent les fêtes traditionnelles, bien entendu. Et puis, il y a les bénéficiaires. Là, c'est toute la société. Le mariage,
chacun à sa façon, les détenteurs
vont contribuer,
transmettent ce savoir-faire.
Oui, transmettent les savoir-faire, ils transmettent les outils de savoir-faire, ils transmettent les environnements de savoir-faire. Parce que quand on fait un couscous, alors évidemment, il y a la femme qui sait rouler le couscous, il y a aussi le bonhomme, la femme qui sait fabriquer le djfnaïn et tharhalit, l'écuelle dans laquelle on roule le couscous, il y a le monsieur qui sait fabriquer le tamis qui permet de faire des grains de couscous à peu près égal. Il y a celui qui a créé le moulin pour transformer le blé en semoule. C'est tous ces savoir-faire qui vont rentrer dans la protection. Mais ce qui rentre aussi dans la protection, c'est un plan de savoir-faire de sauvegarde. Comment faire pour sauvegarder ? Maintenant que les filles vont à l'école et que les mamans n'apprennent plus à rouler le couscous, comment faire pour que le couscous continue d'être roulé sans pour autant empêcher la femme, la fille, de faire des études ?
Il faut faire des écoles de formation, il faut faire quoi ?
C'est le plan de sauvegarde qui le définit. Dans ce cas précis, le couscous, il faut faire des écoles de formation. Les écoles de formation existent, en fait. Il faut intégrer le couscous dans les écoles de formation. Il faut aussi obliger les restaurants, les hôtels internationaux, les hôtels locaux, les événements, tous les événements avoir comme menu le couscous quotidiennement ou hebdomadairement ou autre chose. Et donc, là, c'est obliger des gens à servir le couscous, c'est favoriser ceux qui fabriquent le couscous. Moi, je connais quelqu'un qui a 13 coopératives qui regroupent en tout 850 femmes qui roulent le couscous. C'est extraordinaire. Mais bon, évidemment, pour l'instant, il fait la concurrence à toutes ces sociétés qui ont des machines pour fabriquer le couscous. Et là, la concurrence est rude, mais pour l'instant, la consommation du couscous roulé main est encore à son avantage.
Alors, le couscous, c'est la chose la plus emblématique, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses, comme par exemple les plantes médicinales.
Il y a tout un savoir-faire. L'UNESCO a défini 5 domaines. Dans les 5 domaines, nous avons d'abord toutes les oralités. Les oralités, c'est les boukhalat à Alger, c'est Achouir, c'est les devinettes, comment on appelle les devinettes en kabyle ? J'ai oublié le terme, mais ça va revenir. Les chants anciens, les poèmes, tout ce qui est oralité. Après, nous avons les arts du spectacle. Par exemple, à Inayer, nous avons à Benisnous, à Tlemcen, une scène qui se fait à minuit avec Eyred, qui s'appelle Eyred d'ailleurs. Eyred, c'est un spectacle qui se fait uniquement pour Inayer. Dans le sud, à Djanet, nous avons une scène qui se fait toutes les... c'est la Sebaïba qui se fait le jour de l'Ashura, mais ce n'est pas Ashura, c'est juste une coïncidence parce que c'est la même date. Pourquoi elle est passée du calendrier solaire au calendrier lunisolaire, qui est devenu lunaire tout simplement en Algérie, c'est toute une histoire, mais ce Beïba, c'est une fête antérieure à la venue de l'islam.
Justement, ça c'est extrêmement important ce que vous soulevez, parce qu'il se trouve que beaucoup de rituels, beaucoup de fêtes locales, dans le patrimoine immatériel, soit ont été déplacées et aujourd'hui ce sont des fêtes musulmanes, soit elles ont été bousculées et annulées pour remplacer par d'autres. Donc là, il y a une compétition aussi au niveau du patrimoine. Et comment vous gérez cette compétition sans entrer dans une schizophrénie, je dirais, mentale.
Dans la recherche, on fait de la recherche livresque d'abord, les livres anciens qui ont été écrits pour savoir qu'est-ce qui a été dit. Ensuite, on parle avec les anciens pour savoir comment ils pratiquent. Puis de toute façon, dans les pratiques, on arrive à concevoir si c'est une fête ancienne musulmane, une fête ancienne anti-islamique ou une fête païenne, une fête qui est venue bien plus tard. C'est facile à lire, bon, pour un anthropologue ou pour un sociologue, même si je n'en suis pas directement un, on peut lire dans les événements comment ça se passait
autrefois.
Parce
que ce que vous venez de dire sur la Ashura, sur la des centaines, voire des milliers de fêtes en Algérie, où on a une fête déjà anti-islamique et qui existait avant, je veux dire, une célébration musulmane.
Mais bon, on arrive à voir, parce que il y a des paroles qui se transmettent, il y a aussi des gestes qui se transmettent. Ce Beïba, c'est une fête, c'est une danse guerrière. Et la danse raconte un peuple, enfin une armée une armée de chez nous, voilà, comment on va les appeler, Sud-Algérie, mais ça ne s'appelait pas encore l'Algérie, qui va faire la guerre à une armée égyptienne. Et à la fin, l'armée de chez nous va gagner contre l'armée égyptienne. Donc, de là à penser à Chechnar et tout ce qui s'est passé, même si Chechnar, lui, n'a pas fait la guerre, mais ça, c'est encore une autre histoire, dans l'imaginaire social, on a reproduit cette victoire de Chechnar ou ce passage de Chechnar au poste de pharaon par une danse guerrière, et on fait la guerre en dansant. C'est quand même pour expier le mal d'une guerre qui est là pour tuer les gens. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a d'autres danses aussi qui représentent la vie algérienne, qui, elles, sont réellement musulmanes. Parce qu'on a aussi du patrimoine musulman, même si on ne l'appelle pas comme ça. Chaque patrimoine porte son nom local. On a, par exemple, le Rakb Sid Chir, qui est une fantasia. Entre parenthèses, la fantasia algérienne de Rakb Sid Chir, Rakb s'est montée, elle a monté à cheval. Et donc, ça a été inscrit à l'UNESCO en 2013. Le Rakb est une danse qui est rattachée à un événement religieux. Religieux, c'est-à-dire la visite d'une zawiya. La zawiya, c'est purement musulman, même si, comme je disais au début, c'est une façon très particulière de concevoir l'islam. Il y a aussi le Mouloud. Le Mouloud est une fête musulmane. Mais quand nous pratiquons le Mouloud, les gens de l'Est, des pays musulmans, le voient autrement. Ils ne sont pas toujours d'accord avec nous. Ashura aussi, ils ne sont pas d'accord avec nous. Parce que qui pratique Ashura dans l'Est musulman, il n'y en a pas beaucoup, pour des raisons différentes et tout, longue à expliquer. Mais même quand on est dans l'islamité, on a notre islamité qui est teintée d'abord du monde soufi et qui est aussi teintée de nos traditions locales. Donc ça ne peut pas... Pour moi, ça n'interfère pas vraiment en culture. Maintenant que ça interfère au niveau politique, ce n'est plus mon problème. Ça me dépasse.
On se retrouve dans un petit instant pour la dernière partie de ce grand témoin.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, toujours avec Louisa Gallez, docteur en philosophie, chercheuse, experte auprès de l'UNESCO et chargée des questions du patrimoine immatériel en Algérie. Donc on continue dans les domaines de classement du patrimoine immatériel, Louisa.
Oui, donc je disais que le premier domaine, c'était toutes les oralités. Le deuxième, c'est les arts du spectacle. Il y a aussi les rites et les rituels, tous les rituels, comme Mazolan Dhor, par exemple, qui est très, très peu connu, qui se passe en Kabylie, en plein mois d'août. On monte en escalade une montagne à pied. Ça, c'est un rituel qui est très intéressant, parce qu'il n'y a rien.
Il y a Anzar, par exemple, la fête à la pluie.
Anzar, c'est aussi un rituel. Il y a énormément de rituels que nous avons. Le quatrième domaine, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature et l'univers. Moi, je place Anzar, un événement ou un élément, comme disent, c'est le terme de l'UNESCO, un élément peut dépendre de plusieurs domaines.
Bien sûr.
Donc Anzar, il dépend aussi du domaine Il dépend du rituel, des festivités, des rituels. Et il dépend aussi des relations avec la nature et l'univers, parce que nous rentrons un petit peu, on est en contact permanent avec la nature.
Oui, le patrimoine, c'est jamais vertical, c'est toujours transversal.
Voilà, c'est transversal.
Et ça subit les influences. Mmh. C'est une décantation, je veux dire, historique.
Oui, et le dernier domaine qui est le plus important, c'est les savoir-faire. Tout ce que nous savons faire avec nos mains, avec nos pieds, avec notre tête, avec tout notre corps, tout ça, c'est le patrimoine. Fabriquer un instrument de musique, fabriquer une écuelle de couscous, fabriquer de l'huile d'olive quand les femmes rentrent dans Ahdhon et puis elles fabriquent ça avec leurs pieds, et ça fait très mal. Donc tout ça, c'est des savoirs, des savoirs et savoir-faire qui rentrent dans le patrimoine et qui sont tenus par des détenteurs qu'il faut protéger, qu'il faut suivre, qu'il faut accompagner pour que la transmission puisse se faire, ou au moins, si on ne peut pas faire la transmission parce que les gens n'en veulent plus pour une raison ou pour une autre, ça peut arriver, donc au moins pour inventorier cela et dire que ça existait un certain temps et que ça disparaît parce que les gens n'en veulent plus, parce que la modernité, la mondialisation, voilà.
Et justement, vous venez à l'instant de parler de modernité. La modernisation galopante fait que peut-être parfois on a envie d'oublier ça, de négliger ou de dire bon finalement c'est pas si important que ça. Vous devez certainement vous en Algérie vous battre contre des forces, je dirais, un peu réactionnaires, non ?
Non, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Oui, il y a toujours des forces réactionnaires. Il y a toujours des avis. Il y a toujours des insultes sur Internet.
En disant ça, c'est pas important, c'est pas...
Voilà. Mais je crois que c'est pas le plus grave problème. Le plus grave problème, c'est que nous avons enregistré des siècles de retard. Après, si on veut passer à la modernité, entre guillemets, c'est-à-dire si on veut se mettre à un niveau de vie plus ou moins acceptable, il faut avoir des priorités. La priorité, c'est de construire des écoles pour les enfants, c'est de construire des maisons pour tout le monde, c'est de construire des routes, tout ça, c'est des budgets. Donc, les budgets supplémentaires pour faire de la culture, ça viendra plus tard. Or, ça ne vient jamais parce qu'on a encore besoin de maisons, d'écoles et de routes, etc. Et ce n'est pas la priorité parce que...
Alors, une question peut-être pour répondre en une minute. Est-ce que le colonialisme, est-ce que les colonialismes successifs, parce qu'il n'y a pas eu le colonialisme français, il y a eu le turc...
Depuis le 15e siècle, nous, on n'a pas bougé déjà.
Est-ce que ça a été des éléments qui ont, ralenti, empêché, coupé, diminué, occulté, l'héritage des patrimoines? Je donnerai par exemple un exemple, ce sont les Moussems. Les Moussems étaient pullulés dans le sud de l'Algérie. Mm-hmm. Après le colonialisme français, puis zéro, tout s'est déplacé dans le sud marocain. Comment est-ce que le colonialisme a été un élément qui a asséché le patrimoine ?
Mmh. En fait, le colonialisme est un élément qui a asséché tout, y compris le patrimoine. Et puis, il n'y a pas que le colonialisme. Le colonialisme, déjà, on a arrêté tout événement qui favorisait des regroupements, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Et si on regarde bien, on constate que toutes les grandes révolutions algériennes, toutes les grandes muqawabas, sont nées dans des zaouias. La muqawama de Mokrani était un cheikh de zaouia. Ce n'était que l'ami de Cheikh Haddad. Fatma Soumel est enfant de zaouia. Dans le sud, toutes les révolutions que nous avons connues, elles sont nées dans des zaouias. Cheikh Bouamama, c'est un cheikh de zaouia. D'ailleurs, on l'appelle Cheikh Bouamama, ce n'est pas par hasard. Ce qui fait que favoriser le regroupement, c'est favoriser des gens qui vont taper sur la France, sur le colonialisme. Et c'est pour ça qu'il fallait éliminer tout ça. D'abord, on renvoie les gens qui sont du nord vers le sud, et après, éparpiller les gens dans le sud pour qu'ils aillent soit à droite, soit à gauche, et donc ils allaient soit en Afrique, soit en Tunisie. C'est pour ça qu'on retrouve la Tidjania au Soudan, qu'on retrouve aussi la Rahmania au Soudan, ou qu'on les retrouve au Maroc, comme encore une fois la Tidjania et les autres mouvements. Par la suite, en 62, le socialisme n'a pas arrangé les choses. On voulait une société moderne, modernisée, rationaliste, à la soviétique, où tout le monde est égal, où tout le monde réfléchisse de la même façon ou ne réfléchisse pas du tout, mais surtout ne pas aller vers les spiritualités qui peuvent séparer les gens. Sans penser vraiment qu'il faudrait converger vers un but commun, c'est surtout pour maintenir les choses.
J'ai deux petites questions à vous poser sur le patrimoine immatériel. Il y a un comité international qui s'est créé en France avec Yazid Ben Ami, Tassar Adet Yassine, etc. Mm-hmm. Ce qui a touché la Kabylie, notamment les incendies, etc. Mm-hmm. Et ce comité, vous souhaiterez mettre la Kabylie comme patrimoine mondial de l'humanité ou de l'UNESCO. Et il a avancé deux, trois éléments importants, à savoir qu'en Kabylie, on a découvert deux forêts indigènes. C'est-à-dire que deux forêts où aucun être humain n'est rentré. C'est-à-dire des forêts sauvages qui sont répertoriées comme en Amazonie, etc. Il y a, par exemple, des animaux comme le chien de Kabylie, l'oiseau de Kabylie. Il y a la poule kabyle. Il y a des éléments à la fois de végétation, animale, qui sont spécifiques. Est-ce que c'est illusoire, par exemple, de réfléchir à une entité qui a vraiment une homogénéité du point de vue d'un écosystème et de faire tout un travail pour demander qu'elle soit recensée comme patrimoine mondial de l'humanité ou de l'UNESCO. Est-ce que c'est
non,
est-ce
c'est pas une illusion du tout, c'est pas utopique.
Vous êtes une experte, je le rappelle.
Ça ne s'inscrit pas dans le patrimoine culturel immatériel, mais ça s'inscrit quand même dans le patrimoine naturel, c'est-à-dire que c'est découvert toutes ces forêts.
En tout cas, ça pourrait être un chemin.
Ça doit être un chemin sur la liste Ramsar. Maintenant, sincèrement, je ne sais pas si elles sont listées pour l'instant dans la liste Ramsar. Dans la liste Ramsar, nous avons inscrit à peu près 50 sites. Puis il y en a 3000 ou 4000 sites qui ne sont pas inscrits. Parce qu'après, quand on a découvert, on n'a pas tout fait, on n'a fait que découvrir. Après, il y a tout un chemin à suivre de protection, déjà de délimitation, d'identification, de travail scientifique avec les gens spécialistes des oiseaux, spécialistes des plantes.
Et puis, par exemple, il y a Aham, la maison kabyle, qui est quelque chose
kabyle
de très spécifique.
Devrait être classée dans la maison kabyle. Ce serait un élément mitigé parce que c'est dans l'interaction culture-nature. Et évidemment, avec la maison kabyle va rentrer l'art culinaire kabyle, le costume femme et homme, les animaux qu'on y élève, les tables par rapport à l'espace de vie, la petite le palisht qui est au-dessus de l'étable et expliquer le pourquoi de tout ça. Donc c'est un long travail, mais c'est un travail très intéressant. Il y a déjà des travaux qui sont faits au niveau livresque. Il y a des livres qui ont été faits, des colloques qui ont été faits. Il n'y a que l'inscription. Mais sincèrement, moi, les histoires d'inscription ne m'emballent pas outre mesure. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'identification. Nous avons des éléments classés. Nous, on en est presque à une dizaine. Mais bon, d'abord, il faut suivre le plan de sauvegarde. Ça, le plan de sauvegarde n'est pas toujours suivi. Ensuite, il y a un système de classement qui fait que nous suivons une ligne directrice qui est tracée par l'UNESCO, qui n'est pas le classement de la chose, mais le classement du dossier. Ça aussi, pour moi, c'est un faux chemin. Et on peut n'en rien faire. Après, par exemple, on a classé le Kielilma, les mesureurs d'eau. Mais depuis Kielilma, les gens sont morts. On n'a pas reproduit les Kielilma parce que c'est difficile à faire pour un résultat incertain. Il y a plus de paysans, très peu de paysans en tout cas dans cette région-là. Il y a d'autres moyens de trouver de l'eau, puisqu'on a découvert des nappes albiennes qui font qu'on peut avoir de l'eau en pompant. C'est bon ou c'est mauvais, c'est une autre paire de manches. Mais le plan de sauvegarde n'a pas été suivi. Alors que si on fait une identification, on saura exactement ce que nous avons comme patrimoine dans chaque région, dans chaque coin de l'Algérie.
Justement, restons dans le patrimoine, et un patrimoine qui est dans toute l'Afrique du Nord, en Algérie bien sûr. Je veux parler de Yenayer. Est-ce que Yenayer pourrait être classé comme patrimoine immatériel, puisque c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps? Quel est votre avis?
Oui, bien sûr, il peut être classé. Il peut être classé, il a été proposé plusieurs fois, mais le problème de l'UNESCO, c'est qu'on classe toujours un élément à la fois. Donc on fait le travail sur 3, 4, 5, 10 ans, après, on dépose le dossier. S'il y a une virgule qui manque, enfin, j'exagère, mais bon, le dossier est analysé. S'il y a des manques dans le dossier, on renvoie le dossier, ça va encore prendre 2 ans pour classer l'élément. Et le problème, c'est que comme on a toujours d'autres priorités en parallèle, ces priorités vont passer avant, il n'a jamais été posé. Mais théoriquement, ça devrait être posé comme patrimoine. Et d'ailleurs, ce serait bien si on arrivait à le faire comme patrimoine sur liste commune. Parce que le Maroc aussi, en Tunisie, ils sont en train de récupérer Inayel. Et j'ai même rencontré des Libyens qui sont venus me voir pour analyser un petit peu les comportements qu'ils ont dans les fêtes musulmanes, pour savoir est-ce que ces comportements ne sont pas venus des traditions ancestrales qui ont été accolées l'Aïd du Mouton ou l'Aïd après le Carême ou le Mouloud ou autre chose, pour que la pratique ne s'en aille pas. Parce qu'on peut toujours même si on n'arrive pas à garder le rite, on peut très bien garder les gestes en le collant à un autre événement pour qu'on puisse le conserver d'une façon ou d'une autre.
Alors vous parlez de fêtes musulmanes, mais il y a des gens même qui n'ont pas de religion qui fêtent Yen Ayer. Donc c'est aussi une tradition.
Non, Yen Ayer n'a rien à voir avec la fête musulmane.
En dehors de la religion.
Je parlais de fêtes musulmanes à laquelle on a accolé certaines pratiques de Yen Ayer. Ouais. Nous aussi, on le fait. Maintenant, on a repris les choses, mais avant, par exemple, pour le premier enfant, pour le garçon, la première fois, on lui coupe ses cheveux, on lui fait une coupe, ça se fait le jour de Yen Ayer. Et maintenant, il y a des gens qui le font le jour de l'Eid al-Qurban ou le jour du Mouloud. Il y a aussi quand on veut circoncire un enfant, un garçon, ça se fait le jour de Yen Ayer, même si aujourd'hui, tout le monde le fait pendant le Ramadan. Donc, ce sont des gestes qui ont été importés de Yen Ayer et collés à d'autres événements musulmans, mais le geste est là.
Et vous parlez de ces pratiques en Tunisie, etc., mais on les retrouve aussi dans les diasporas. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans les diasporas en Europe, aux États-Unis, au Canada. On retrouve des gens qui sont originaires d'Afrique du Nord, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, qui fêtent aussi Yen Ayer, même s'ils ne vivent pas dans les pays d'origine.
Oui.
Ils transmettent ça et c'est un élément de leur citoyenneté, même s'ils sont canadiens, français, italiens ou autres. Ils fêtent Yen Ayer, c'est la culture qui est transmise.
Mm-hmm. Oui, là, je dois tirer chapeau quand même à la diaspora algérienne parce que beaucoup de traditions sont conservées grâce à eux, grâce à elle, la diaspora. Et ils nous poussent même, en Algérie, à nous reposer la question de notre patrimoine. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais aussi souligner qu'ils ont fait tellement un bon travail sur Yen Ayer que la fiche d'identification de Yen Ayer est intégrée dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français, bien entendu, à la demande de la diaspora algérienne.
C'est un mystère pour personne. Les diasporas, de façon générale, quelles qu'elles soient, font un travail, je dirais, pas de surenchère, mais sur la culture, ils sont dans une démarche quasi irrationnelle. Et ils sont en demande parce qu'il y a
un travail identitaire.
Il y a une quête identitaire absolument très importante. Ouisa Gallez, c'est passionnant. On parlerait avec vous des heures et des heures. Merci mille fois d'être venu nous voir et à très bientôt.
Merci pour l'invitation.
Merci
à bientôt, j'espère.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.